demain. Une émission de Jean-Pierre Estrampe. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la reprise des émissions après la trêve de vacances et je vais vous parler aujourd'hui peut-être d'une actualité d'une émission que j'ai entendue à la radio pendant ces vacances qui était une radio locale. Ce n'était pas Esprit Occitanie, mais c'était une autre radio et on interviewait des commerçants sur la ville de Toulouse et notamment le centre-ville et la politique de centre-ville de la mairie de Toulouse avec un adjoint, je crois que c'était M. Bolsan, qui répondait aux questions de l'intervieweur sur le problème des boutiques, les problèmes des cafés, le problème du bruit et des nuisances avec la population. Donc la question qui était posée était essentiellement poser le problème des commerçants et des commerçants qui avaient des difficultés par rapport au beau et la concurrence qu'il y avait entre les boutiques, les commerçants et les restaurants et les commerces. Alors la position qui était juridique du responsable politique était de dire la mairie, enfin les autorités, l'État ne peut pas contrôler et définir les emplacements et avoir un arbitraire sur ce qui est la liberté du commerce. Et donc la seule action dont pouvait parler le maire adjoint était l'autorisation d'ouvrir des terrasses ou non. C'est-à-dire, évidemment, les terrasses étant sur l'espace public, on ne pouvait pas contrôler la destination des lieux, des commerces, du moment qu'il y avait l'autorisation d'un commerce. On ne pouvait pas définir quel type de commerce, mais il y avait simplement l'espace public. Donc, la mairie contrôle les terrasses en disant on les limite le plus possible, et la position du maire reflétait une inquiétude générale à la fois des commerçants, on peut dire diversifiés, hors des cafés et des restaurants. Et la position du maire est de dire, si on laissait faire les terrasses, il n'y aurait plus de commerce, il n'y aurait que des cafés et des restaurants. Alors, la question est tout à fait intéressante, parce que la puissance publique intervient pour limiter le nombre des cafés et des restaurants, on est sur une mutation très importante de ce qu'on appelle le centre-ville. Et mon propos aujourd'hui, c'est de discuter de cela. Alors, il est évident pourquoi on veut limiter les terrasses de café, parce que même si on limite les heures d'ouverture, c'est bruyant. Donc il y a un rapport avec la population, des gens qui travaillent et qui dorment et jusqu'à 2 heures du matin entendre du bruit, c'est plus que compliqué. Alors, je vais revenir sur cette question et ce qui arrive aujourd'hui. Est-ce que c'était prévisible ou est-ce que c'est un phénomène qui est inévitable? Donc, je vais rappeler la phrase de Bossuet, ou du moins qui est attribuée à Bossuet, qui dit « Dieu se rit des hommes » qui déplore les effets dont ils chérissent les causes. Alors, ça veut dire, ou plutôt, ce qui est caché derrière cela, c'est quelles sont les causes de cette situation. Et c'est le propos d'aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre ce phénomène qui n'est pas un phénomène naturel, mais qui a été fabriqué pour des raisons qui sont des raisons idéologiques, politiques, en fait tout un ensemble de choses. Alors, personnellement, je ferai remonter cela, on peut dire, on va marquer une période, c'est disons 68, et ce qu'on a pu appeler après, mais alors dans la décennie suivante, la politique de la ville, mais qui avait déjà défini, à ce moment-là, d'une manière théorique, quand je parle, qui avait défini, c'était les architectes, les urbanistes, et par contre-coup, évidemment, les conseils de la mairie, une idéologie qui remplaçait les visions de l'urbanisme antérieur. Ces visions de l'urbanisme antérieur, c'était par exemple les villes parallèles comme le Mirail. On a eu cette politique qui a été menée dans les années 60. Et les centres-villes, on ne voulait pas les détruire, mais enfin, ça avait été aussi la destruction des centres-villes, la politique de l'après-guerre en grande partie. Alors, il y avait des raisons que l'on avait trouvées, c'était les quartiers insalubres. À Toulouse, par exemple, on a eu la destruction du quartier Saint-Georges. À Bordeaux, on a eu la destruction du quartier Mériadec, et à Paris également, enfin de nombreux quartiers qui ont été remplacés par des opérations d'urbanisme plus ou moins réussies. La plupart n'ont pas été des très grands succès. Donc il y a, par rapport à cela, une remise en cause de cette politique de rénovation brutale qui détruit du patrimoine, même si on l'a qualifié d'insalubre. Et donc, on se tourne vers une politique qui va être plutôt, non pas de préservation, mais en tout cas de construire ailleurs. Et donc, il y a les villes satellites à Paris et, comme je vous disais, le projet du Mirail, c'est une politique assez généralisée. Alors, on peut dire que c'est le mouvement moderne en architecture, et ce mouvement moderne en architecture, en 68, il est combattu par la génération qu'on va appeler les boomers, d'une manière générique aujourd'hui, et donc cette génération qui est née à la fin de la guerre, et qui remet en cause la génération précédente, cette génération qui a été celle de la reconstruction. Et que se passe-t-il à ce moment-là? On a une remise en cause de l'architecture moderne, mais on ne sait pas très bien par quoi la remplacer, parce que c'est très bien de faire tomber les idoles, ou du moins les théories précédentes, et se dire on s'inscrit en faux, mais il faut avoir des idéologies de remplacement. Et ça, c'est toujours un peu compliqué. Alors, ça tombait bien, parce qu'il y a eu un ouvrage qui était fait par un marxiste, il fallait être marxiste à l'époque, qui s'appelait Henri Lefebvre, et donc on a créé le droit à la ville. Donc la ville, c'était le centre-ville, et le centre-ville, tout le monde y avait droit, les ouvriers, et donc ça devenait un droit général. Alors, de ce fait, il fallait définir une ville idéale, et on a un peu trafiqué l'histoire en disant que avant les classes sociales se mélangeaient dans la ville ancienne, et on est sur une utopie de la ville ancienne, comme la ville, on le disait pas encore à l'époque, la ville du vivre ensemble, qui aurait été un moment magique. On ne sait pas très bien quand c'était daté, mais enfin, sur plusieurs siècles, en tout cas, les siècles correspondants à l'architecture qui était présente là. Alors, évidemment, la réalité historique est totalement différente. La condition des ouvriers dans les immeubles anciens était, ou du personnel domestique, était très misérable, et les riches avaient la partie noble et la lumière, et les autres habitaient ou dans des sous-pentes surchauffées en partie au-dessus des immeubles, ou alors dans des rez-de-chaussée qui ne voyaient jamais la lumière du jour, qui étaient humides et qui n'avaient pas évidemment le progrès que l'on peut avoir aujourd'hui de l'assainissement, du chauffage, de la climatisation et de l'éclairage. Donc tout ça est une fiction. Personne ne veut s'opposer à cette théorie. Donc on invente donc les centres-villes et avec un vocabulaire qui va suivre. Alors ça va être l'écusson. Ça sera évidemment historique, centre historique, et ça sera le cœur battant de la ville, et on va dire, après, dans la phase suivante, qui va être peut-être moins théorique, mais on va attribuer au centre-ville d'être le poumon, le cœur, les métaphores organique ne manque pas qui va insuffler la vie à l'ensemble de la métropole et même du pays. Donc ces cœurs battants vont être les cœurs de la puissance économique et là aussi on va en parler dans la deuxième partie. Donc je fais une pause musicale et puis on va reprendre le propos. Alors, vous pourrez me dire, bon, quel est le lien entre ces politiques urbaines et la situation que l'on décrivait tout à l'heure. Ah, c'est là, où, évidemment, où je voulais en venir. Parce que la théorie, et c'était justement pour revenir à Bossuet, a des implications. Et quand on commence à dissocier, ne serait-ce qu'au niveau des mots, on va aussi appliquer des règlements différents. On va considérer le centre-ville comme un quartier différent avec des politiques différentes. Alors d'abord, il y a la politique du secteur sauvegardé. On applique la réglementation de protection des bâtiments historiques. Donc il y a un cercle autour des bâtiments anciens. Et donc on va arriver à une protection, je dirais même une surprotection de ces secteurs, entre guillemets, sauvegardés, au détriment des autres secteurs. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs politiques. Alors, quand on déplore, pour reprendre ce vocabulaire, les zones d'activité, les zones commerciales, eh bien, on a effectivement des réglementations différentes. C'est-à-dire que la surréglementation où la couleur des stores va être imposée, et puis par rapport aux extensions commerciales, d'entrepôts, d'activités différentes qui ne peuvent pas être abrité par cette petite superficie des centres-villes, eh bien, on va laisser faire et toute la réglementation et l'effort d'attention du politique, à la fois dans la communication, va être mis sur ces fameux centres-villes et on va se moquer totalement de ce que l'on fera ailleurs. Donc aujourd'hui, quand on vous parle de la France moche, bah, la France elle est moche parce qu'on ne s'en est pas occupé, il n'y a pas eu le règlement, tout le monde n'a... Et quand je dis tout le monde, c'est à la fois ma profession d'architecte et d'urbaniste, mais c'est aussi les écoles d'architecture qui vont faire des projets uniquement dans les centres-villes. Ça va être le législateur et évidemment le politique qui va se valoriser en coupant des rubans d'inauguration dans les centres-villes et évidemment en délaissant complètement, en ne regardant pas ce qu'on construit ailleurs. Alors évidemment, je caricature, les choses ne sont pas on peut dire aussi simple, mais on peut dire que c'est la tendance générale de survalorisation. Alors, comme je vous disais, donc il y a un règlement d'urbanisme, mais, et c'est là où ça devient un peu plus compliqué, c'est qu'on va réglementer la circulation et on va déclarer que l'espace justement protégé, il va être protégé des voitures, il va être protégé du stationnement et on va supprimer le stationnement, on va supprimer des voies de circulation pour le piéton. Alors est-ce que le piéton et le cycliste, bon c'est très bien, mais pourquoi simplement le limiter à un secteur et pas le généraliser partout, des voies cyclistes partout et d'une manière égale. Donc avec, on peut dire, les meilleures volontés du monde d'une ville idéale, on va créer la ville idéale, et la ville idéale, c'est celle qui va être, évidemment, celle du piéton, celle du cycliste. On va éliminer cette voiture, et puis, sans se rendre compte, ou en voulant ne pas voir, les répercussions social que cela va avoir. Alors, par exemple, je lisais les déclarations d'une association qui s'appelle Deux Pieds de Roue. Alors, évidemment, c'est l'association qui promet la circulation pédestre et cycliste à la place de la voiture. Et cette association, évidemment, qui se bat pour le bien-être des populations, dit nous nous battons pour les familles, pour les personnes âgées et pour les handicapés. Bon, simplement, c'est justement cette catégorie de population qui a besoin de la voiture et qui est la moins apte, les enfants petits, d'être des cyclistes et les populations d'handicapés ou de personnes âgées ne sont pas forcément des marcheurs sur des kilomètres ou des cyclistes endurcis. Donc, en fait, si on tient compte de cette population qui marche et qui fait du vélo, donc on va éliminer tout ce que je viens de dire, personnes âgées, les familles et qui ont besoin effectivement d'avoir des petits-enfants et des voitures pour transporter les courses, etc. Mais aussi les activités et... Le vélo n'est pas forcément la meilleure solution pour des artisans, mais aussi le vélo pour des gens qui ont des métiers, je ne sais pas, dans des bureaux où on veut travailler, recevoir, et qu'on n'est pas forcément... On descend pas de son vélo en sueur pour une réunion de conseil d'administration ou pour rencontrer les clients. Enfin, tout cela fait qu'on va... éliminer une grande partie de la population, d'une part, et puis une grande partie des activités. Alors, je vais vous parler des activités traditionnelles, mais aussi, alors là, c'est les magasins. Et justement, c'était le début de notre mon exposé. C'était justement les magasins qui sont remplacés uniquement par les lieux, on peut dire, de convivialité, qui vont être restaurants, bars et autres formes de lieux de convivialité, mais qui vont être remplacés parce que il y a une règle que l'on emploie, je pense, d'une manière universelle, no parking, no business, ce qui veut dire en bon français, si on ne peut pas se garer, on ne peut pas travailler. Voilà, donc si on ne peut pas avoir de voiture, et les commerces, ils ont besoin des livraisons, ils ont besoin aussi des gens qui viennent prendre s'il s'agit de choses lourdes, et tout ça est très compliqué, et en fait... Les commerces, les activités, les artisans, je pense que ce sont eux qui sont partis les premiers. Et rapidement aussi, les bureaux qui ont de la difficulté pour, justement, parce qu'on a du mal à se garer, on a du mal à circuler. Alors, pour revenir à l'aspect économique, on peut se raconter des histoires et de raconter que ce cœur battant, toute l'économie est dans les centres-villes et l'économie mondialisée. Alors, quand on regarde les plaques des centres-villes, quels qu'ils soient, on voit qu'il y a des professions libérales, effectivement, parce qu'il y a des avocats autour de place du Parlement et autour du palais de justice, pour des raisons évidentes de proximité. Il y a aussi des médecins, il y a aussi des architectes, mais en fait, des métiers dans lesquels, dans le cas notamment de la profession des architectes, on ne reçoit pas les clients très peu. Donc, les gens se déplacent et ce ne sont pas des activités essentielles. En tout cas, ce ne sont pas des activités, contrairement à ce qu'on raconte, mondialisées. Alors, les grandes villes dans le monde, effectivement, ces centres-villes qui deviennent des parcs de loisirs, c'est l'île des loisirs à Agde, par exemple, où on a mis sur un seul endroit la concentration de tout ce qui peut être festif et bruyant. Et aujourd'hui, on a donc quelques décennies par rapport à ces décisions. Bon, on est après d'un demi-siècle d'ailleurs, on a les effets qui sont totalement effectifs d'une ville qui est vidée de sa population de familles traditionnelles, de personnes âgées, de femmes, et remplacée par une population effectivement de jeunes actifs, mais on ne voit plus par exemple d'enfants dans la ville, et on a une ségrégation de population. Ça se traduit également en politique, mais c'est pas mon sujet, par rapport au vote de cette population. Et sur un plan économique, je pense que c'est une grande fiction, parce que il y a effectivement dans certaines villes encore les sièges sociaux qui sont dans les centres-villes, quoique c'est en train de changer. On peut dire que les bureaux des grandes entreprises sont dans les périphéries. Et puis les usines sont dispersées sur tout le territoire. Regardez, à Toulouse, par exemple, vous avez des laboratoires Fabre qui sont des industries mondialisées. Airbus n'est pas dans le centre-ville, et que les cœurs battants de l'économie, ça va être à Rangueil, ça va être dans la proche périphérie, et ça sera aussi plus loin et de plus en plus décentralisé. Donc il serait temps qu'on remette l'Église au centre du village, mais en tout cas le bon sens et la solution, je pense, serait simple, c'est-à-dire d'enlever ces barrières de différence et de faire que les activités soient diffusées avec les mêmes règles. Je pense que, par exemple, l'axe de circulation qui a transformé la rue Alsace et aujourd'hui, on va refaire la même chose avec la rue de Metz, qui étaient les deux axes du cardo d'Ecumenus romain qui ont été continués par le 19e siècle, par aussi le Moyen-Âge également, mais enfin, surtout par le 19e siècle et notre époque, qui perdent ce caractère d'esthétique, de centre commercial, et que l'on revienne avec une ville qui soit en continuité des quartiers et des centres-villes. Donc la position que je préconise, c'est que justement, on peut dire que l'on enlève ce caractère de centre-ville à cet artificiel périmètre historique, et qu'on revoie la ville dans sa réalité historique, qui est beaucoup plus large, et que l'on applique les mêmes politiques de préservation des bâtiments anciens, des bâtiments neufs, également à la fois en urbanisme et en architecture, à un ensemble beaucoup plus large de la métropole, de la ville de Toulouse, mais aussi des villes qui sont tout autour. C'était Où vivrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampes. Je remercie notre nouvel technicien, le sympathique Grégor qui est à la technique. Et je vous dis à la semaine prochaine.